Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Dans ce pays centralisé qu'est la France, l'histoire locale, l'histoire régionale, semble tenir une place moins importante que l'épopée nationale. A contrario, l'Italie, l'Allemagne, dont l'unité est récente, ou bien encore l'Espagne, marquée par le régionalisme et l'autonomisme, sont des nations, ont des États qui donnent sûrement une place plus essentielle à ces époques historiques. Chacun ses traditions, chacun sa culture, chacun son histoire, me direz-vous. Oui, certes, mais il ne faut pas oublier que l'idée de nation est un principe dont les origines remontent au XVe siècle avec Jeanne d'Arc. Nous pouvons peut-être même en trouver les prémices sous Philippe Auguste au début du XIVe siècle, mais l'épanouissement du principe et du fait national trouve sans conteste ses origines dans la définition rousseauiste de la nation au temps des Lumières, le XVIIIe siècle donc. C'est dire que le fait régional est incontournable dans nos études, dans nos recherches sur la France médiévale, d'autant plus que la diversité régionale appelle la complexité et la nuance. Ainsi, les réalités géographiques étaient parfois très confuse. Il en fut ainsi du royaume de Majorque, un ensemble disparate composé des îles Baléares, du Roussillon, de la Cerdagne et de la seigneurie de Montpellier. Ce royaume avait une capitale, il s'agissait ni plus ni moins de notre bonne ville de Perpignan. Ce royaume oublié aujourd'hui eut ses origines, eut ses princes. Je vous propose donc de revenir sur la formation de ce royaume oublié à travers l'évocation de la conquête de l'île de Majorque en 1229. Une conquête réalisée sur les musulmans par le roi d'Aragon, comte de Barcelone et seigneur de Montpellier, Jacques Ier, appelé aussi Jaume le Conquérant. Que représente une telle conquête au début du XVIIIe siècle? Fut-elle réalisée au nom de la foi ou bien sous couvert de jeux et d'intérêts politiques? Quelle place prend le fait d'armes dans les chroniques, dans les textes de l'époque, tant du côté chrétien que du côté musulman? Cette conquête contre les musulmans constitue-t-elle une exception ou non dans la Reconquista qui se terminera en 1492? C'est ce que je vous propose de découvrir avec Robert Vinas. Robert Vinas, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes historien, paléographe de formation, spécialiste d'histoire médiévale. Vous avez longtemps travaillé sur les Templiers en Roussillon. Vous avez publié un ouvrage sur le sujet. Vous êtes aussi secrétaire de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales. Cette société, Robert Vinas, fera l'objet de ma première question. Pourriez-vous tout simplement nous présenter cette société, elle et son histoire?
C'est une vieille dame. C'est une de ces sociétés savantes qui sont nées sous la monarchie de Juillet. La nôtre est née en 1833 et qui s'est occupée, surtout au XIXe siècle, de tout le patrimoine, comme le dit son nom, agricole, scientifique et littéraire de ce département des Pyrénées-Orientales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un étudiant qui voudrait avoir une connaissance précise de ce qu'a été le développement de l'agriculture dans ce département pourrait tout simplement se plonger dans les bulletins de cette société et en faire une thèse.
Alors, c'est une société très vivante, hein. Vous publiez énormément.
Nous publions tous les ans. Nous publions tous les ans, généralement, puisque nous avons aussi un programme de conférences, le contenu de notre bulletin annuel, c'est le texte des conférences données pendant l'année et que nous distribuons donc à nos adhérents. Mais depuis quelque temps, la société a également changé sa manière de voir et publie des monographies. Et ça depuis maintenant une bonne trentaine d'années, des monographies. Donc, et celle, l'avant-dernière des monographies qui a été publiée, c'est celle que, donc, qui consiste à donner cet ensemble de textes et de documents sur la conquête de Majorque.
Alors nous allons revenir bien évidemment sur ce livre, mais avant je reviens sur l'histoire de cette société. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est une histoire qui ne s'est jamais interrompue.
Très rarement, un petit peu pendant la Grande Guerre, pendant la Première Guerre mondiale, pour des raisons que vous pouvez imaginer, mais un petit peu aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais jamais la société n'a cessé de publier son bulletin plus de 3 ans de suite.
Alors, nos auditeurs peuvent retrouver cette société à travers son site internet et également www.mediterranee.net. On y retrouve notamment la liste de toutes les publications, l'historique de la société et également tout simplement l'histoire de votre région.
C'est ça. Les bulletins qui sont encore disponibles, ou même ils peuvent demander si tel ou tel article les intéresse à ce qu'on le mette en ligne pour eux.
Alors, vous avez publié, vous venez de le dire, un ouvrage magnifique, il y a 2 ans, un ouvrage de texte et d'images salué par Michel Zinc de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. Il s'agit d'un ouvrage coécrit avec votre épouse, Agnès Vinas, agrégée de lettres classiques. La conquête de Majorque, c'est le titre de l'ouvrage, c'est un ouvrage qui a été traduit récemment en catalan.
Oui, qui a été traduit en catalan et qui doit paraître pour la prochaine fête du livre et de la rose, pour la Saint-Jordi, la Saint-Georges. Il doit paraître donc à Palma de Majorque et à Barcelone.
Alors racontez-nous, Robert Vinas, quelle fut la genèse de ce livre ?
Bien, le livre tel qu'on peut le trouver et se le procurer, au départ, n'était pas un projet bien défini. Au départ, c'était une vieille idée que j'avais de traduire, de mettre à la disposition du public français et francophone le livre des faits du roi Jacques le Conquérant.
Alors qu'est-ce que ce fameux livre des faits ?
Ce livre des faits, c'est un récit autobiographique sur lequel les spécialistes sont encore en train de se battre pour savoir comment il a été composé, mais dont nous savons aujourd'hui qu'il a été certainement composé par le roi, qui ne l'a pas écrit lui-même, mais qui l'a évoqué, qui a évoqué les diverses périodes de sa vie au cours de soirées, de veillées. Et tout ça, ça a été pris en note par des secrétaires et ensuite revu partiellement par le roi. Donc, et ça a donné ce récit autobiographique qu'on appelle « Livre des faits », qui est resté longtemps à l'état de documents épars dans les archives de la famille royale d'Aragon et qui ensuite a été mis pour la première fois disons, au propre, par un moine de l'abbaye de Poblette en 1343, donc à la demande de l'arrière-petit-fils du roi Jacques le Conquérant, qui est le roi Pierre IV le Cérémonieux. Et c'est à partir de ce texte base, donc, lui-même issu de documents épars, résultat de ces soirées de récits du roi, c'est à partir de ce texte base de l'abbaye de Poblette en 1343 que les historiens et les linguistes d'aujourd'hui travaillent. C'est du catalan archaïque.
Alors, vous n'avez pas souhaité vous arrêter, en fait, au livre des faits, ou plutôt, vous vous êtes arrêté au fait de la conquête de Majorque.
Oui.
Mais vous n'avez pas souhaité vous contenter du livre des faits et vous avez souhaité aller au-delà.
Voilà. Alors, au départ, nous avons voulu essayer de voir ce que donnerait une traduction partielle de ce livre des faits et nous avons cherché, dans ce livre, un ensemble qui serait cohérent et qui serait un tout. Et nous avons trouvé comme ensemble cohérent la conquête de Majorque. Après, nous avons un petit peu regardé notre travail pour savoir si nous en étions nous-mêmes satisfaits. Mais entre-temps, nous avions fait des recherches sur cette conquête de Majorque et nous nous sommes aperçus qu'il ne suffisait pas. Donc, si on voulait présenter le fait de la conquête de Majorque, on ne pouvait pas se limiter au récit du roi. D'autres chroniqueurs catalans de la fin du XIIIe, du début du XIVe, en avaient également parlé. En particulier Bernard Desclot, qui a travaillé sur le fils et successeur de Jacques le Conquérant, Pierre. Et en particulier un autre chroniqueur catalan qui s'appelle Ramon Muntaner, qui a écrit lui sur toute la dynastie. Bon. Mais une fois qu'on a été là, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres choses. On s'est aperçu que au début du XIVe siècle, un dominicain qui s'appelle Pierre Marsili avait reçu comme mission du petit-fils du roi Jacques le Conquérant de mettre ce texte en latin. Pourquoi en latin ? Bien parce que le latin était à l'époque la langue des gens cultivés et qu'il pensait que ce texte aurait peut-être plus de diffusion s'il était mis dans la langue de tous les gens qui comptaient. Hein. Et il comptait à l'envoyer, je pense, un exemplaire au pape lui-même. Bon, nous avons donc ajouté à ces premiers textes celui du dominicain Pierre Marsili. Bon, là, on a dû le traduire du latin, bien sûr. Cette fois, ce n'était plus du catalan, c'était du latin. Mais après, en cherchant encore, on s'est aperçu, on s'est dit quand même, nous allons présenter une vision qui est une vision totalement chrétienne de l'événement. Est-ce qu'il n'y a pas, du côté musulman, du côté des sarrasins, comme on les appelait à l'époque, des gens qui ont évoqué ce thème? Et donc, nous nous sommes mis à rechercher les chroniques musulmanes. Avec la difficulté cette fois que toutes n'ont pas été mises dans des langages compréhensibles pour nous, c'est-à-dire des langages comme le catalan, l'espagnol ou le français, hein, ou toute autre langue européenne, mais que certains étaient restés en arabe. Et à ce moment-là, bien sûr, nous avons dû faire appel à des amis arabisants qui nous ont aidés, parce que cette œuvre est beaucoup plus collective encore que ne le dit le titre. C'est Agnès et Robert Vinas, mais c'est aussi tous les amis, tous les chercheurs qui nous ont aidés.
Alors, c'est un travail qui est magnifique, hein, qui est, j'allais dire, qui est aussi très pédagogique. Quel est le parti pédagogique que vous avez souhaité prendre ?
Le parti pédagogique, ça a été, à un certain moment, de se rendre compte que l'événement de la conquête de Majorque avait suscité une iconographie extrêmement abondante qui allait depuis la fin du XIIIe siècle et les peintures murales qu'on peut trouver dans certains palais barcelonais jusqu'au XXe siècle dans les livres pour les élèves qui ont été produits aussi bien à Majorque qu'en Catalogne ou même dans les bandes dessinées qui ont été faites pour enfants pour illustrer ce fait. Et bien sûr, avec toutes les étapes intermédiaires, y compris les fameux tableaux pompiers du 19e dont nous parlions tout à l'heure. Donc, on s'est aperçu qu'on avait cette iconographie. Et on s'est dit, on ne peut pas la laisser de côté. Elle fait partie de l'histoire, et non seulement de l'histoire, mais du mythe qui s'est créé à propos de cette conquête de Majorque. Parce que la conquête de Majorque, c'est une chose extraordinaire. C'est la première fois qu'une nation chrétienne, continentale, hispanique, passe la mer et va conquérir, comme le dit le roi dans son livre, un royaume dans la mer, ce qu'aucun autre roi d'Espagne n'a fait avant moi. Et donc, à partir du moment où on a eu cette iconographie, on s'est dit, comment va-t-on faire ? Alors, le parti pris qui a été choisi, c'est d'abord de placer l'iconographie, et ensuite les textes. Et puis on s'est aperçu qu'il manquait quelque chose. On s'est dit, on va faire ce livre en français, on va donc s'adresser à un public qui ne connaît pas l'histoire qu'on lui raconte. Il faut l'aider. Et pour aider ce public, il y a de temps en temps, dans le livre, des cadres.
Des petits éclairages.
Des éclairages historiques ou même littéraires qui vont lui permettre de suivre ce récit de bout en bout. Et c'est ça le parti pris pédagogique du livre, de mêler à la fois les textes authentiques, les images et des éclairages, soit littéraires, soit historiques. Voilà.
Alors ce livre, hein, vraiment cette pédagogie est importante parce que ce livre ne s'adresse pas forcément qu'à des spécialistes, il s'adresse au grand public, le livre est très accessible, vous avez vous-même souhaité à ce que le texte de Jacques, roi d'Aragon, puisse être lu, j'allais dire, non pas dans notre langage actuel, mais le plus adapté à notre langage actuel, afin d'en faciliter la compréhension. Et ça, c'est là où on arrive vraiment à l'extrémité de cette pédagogie.
Ça, c'est la quadrature du cercle. On n'est jamais sûr de la réussir, celle-là. C'est-à-dire qu'il faut à la fois un texte qui soit proche de l'original, mais qui donne quelque chose de lisible pour le lecteur français contemporain. Et cette alchimie-là, on n'est jamais sûr de la réussir, il faut rester d'une extrême modestie parce que d'un chapitre à l'autre, on peut faire quelque chose de très beau ou une horreur. Voilà. Et ça, c'est le public qui nous le dit après, celui qui lit qui nous dit.
Eh bien, je peux vous dire que c'est très réussi. Je reçois Robert Vinas au micro de Canal Académie et nous allons évoquer, après la première pause, cette fameuse conquête de Majorque, donc en 1229. À tout de suite, Robert Vinas.
Canal Académie vous propose une nouvelle rubrique, l'Académie des blogs. On estime qu'actuellement, il s'ouvre un blog toutes les 2 secondes dans le monde et nous ne pouvions pas passer à côté d'un tel phénomène de société, surtout lorsque les académiciens s'y mettent aussi. Alors retrouvez tous les lundis un blogueur du monde de l'édition, de la presse, de l'enseignement ou tout simplement amateur de littérature pour associer l'utile à l'agréable. En compagnie de David Abiker et d'Élodie Courtejoie, nous vous emmenons à la découverte de la crème de la blogosphère.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Robert Vinas, historien et auteur avec Agnès Vidas du livre La conquête de Majorque. Alors nous avons évoqué la genèse de ce livre, le contenu pédagogique de cet ouvrage. Entrons dans l'histoire si vous le voulez bien, Robert Vinas. Peut-on parler à propos de la conquête de Majorque d'une croisade, d'une reconquista? Et quelle est finalement la différence entre croisade et reconquista?
Vaste sujet qui intéresse donc tous les saints royaumes de la péninsule ibérique au Moyen-Âge, c'est tout à la fois. En fait, on se rend compte que ça ne peut pas être autre chose qu'une croisade, puisqu'il s'agit d'aller reprendre aux musulmans d'Espagne, aux sarrasins, comme on les appelait à l'époque, ce qu'ils ont conquis donc au début du 8e siècle. Et évidemment, la papauté est au courant, approuve, et c'est elle qui donne même le label de croisade à l'entreprise. Donc, rien ne peut se faire s'il n'y a pas l'appui de l'Église. Mais ce n'est pas suffisant. Si cette expédition est une croisade, c'est aussi autre chose. C'est aussi une conquête militaire. Et pourquoi cette conquête militaire ? Eh bien, pour gagner des territoires, gagner des biens, faire du butin, faire des esclaves, pour pouvoir les revendre. C'est donc ça aussi. Et d'ailleurs, le roi Jaume est obligé, avant de se lancer dans cette expédition, de tenir ce qu'on appelait en Catalogne à l'époque des cortes, c'est-à-dire des espèces d'états généraux. Aujourd'hui, je mets des guillemets, parce que là, je suis en train de prononcer des mots qui sont des anachronismes, en quelque sorte. Mais nous sommes dans un pays, la Catalogne du XIIIe siècle, qui n'est pas une monarchie absolue. Le roi, s'il veut monter une expédition, il doit s'assurer du concours de tous ses sujets, de tous ses vassaux. Il est donc obligé de réunir une assemblée où on va discuter avec les représentants de l'Église, de la noblesse et des villes de comment organiser, financer, exécuter cette expédition.
Et le seigneur écoute. Vous le montrez notamment avant la conquête de la ville, l'actuel Palma de Majorque. Au début, les seigneurs n'étaient pas d'accord avec Jacques. Oui. Et d'ailleurs, Jacques s'aligne en quelque sorte sur l'avis de ses seigneurs. Et après, il leur montre qu'ils avaient tort.
Oui, mais ça, c'est sa manière de raconter l'histoire, parce que bien sûr, son livre, c'est aussi un plaidoyer pro domo. Mais vous savez, il doit prendre l'avis. Lorsqu'il réunit cette assemblée à Barcelone, il leur dit, voilà, j'ai l'intention d'aller conquérir Majorque, parce que vous savez ce que nous ont fait les Sarrasins. Ils nous interceptent nos bateaux, ils prennent nos gens en esclaves. Ça suffit, c'est insupportable. Et puis, il y aura peut-être quelque chose à y gagner. À ce moment-là, les principaux seigneurs se lèvent et lui donnent leurs conseils. On est dans un système féodal. Les seigneurs lui doivent aide et conseil.
Auxilium et concilium.
Oui, c'est ça. Et aussi bien les seigneurs ecclésiastiques que les seigneurs, que les féodaux, proprement dit. Et donc, ça se traduit, ça, par un contrat. On signe un contrat qui spécifie que quand on aura conquis Majorque, on se partagera tout ce qu'on gagnera là-bas, les terres, les gens, le butin, selon l'importance de l'aide militaire qu'on aura apportée au roi. Et tout le monde signe, le roi en tête. C'est donc une croisade, mais c'est aussi un contrat pour une conquête.
Alors, il y a également un intérêt politique. Vous montrez bien dans votre ouvrage que, en fait, Bernat d'Esclotte, oui, qui est un autre texte que vous publiez, voit les choses de manière plus précise, plus historique, à la différence de Jaume, donc, qui, lui, peut-être met davantage en avant le fait religieux et n'insiste pas sur les origines de la conquête.
C'est cela. Et puis, lui, il parle de lui. Son livre parle de lui et de la façon dont il a mené les choses. Mais bien sûr, il est partial. Alors, Bernard Desclot, qui écrit à peu près 50 ans après et qui a pu discuter avec les derniers survivants de ceux qui avaient participé à ça, lui, est un homme de la chancellerie du roi Pierre III, le fils de Jaume. Hein. Il a donc eu accès à des sources à la fois de chancellerie et aux derniers témoignages des survivants. Et lui, bien sûr, il fait un tableau complètement différent. Ce qui fait que nous nous sommes trouvés dans l'obligation intellectuelle, disons, de publier le texte de Bernard Desclot parce qu'il fait contrepoids à celui de Jaume et qu'il éclaire cette conquête d'une autre manière.
Et le style,
complètement différent.
C'est un avantage de votre ouvrage, c'est que vous montrez vraiment, vous éclairez le lecteur sur les styles qui sont vraiment, vraiment différents les uns des autres.
C'est ça, il a fallu attendre les années 1990, 1991 et la grande thèse de José María Pujol, qui est professeur à l'Université de Tarragone, pour enfin faire comprendre à tous les gens qui s'intéressaient à ces textes une chose qui saute aux yeux, c'est que le livre des faits, c'est de l'oral, pris en note et à peine transformé, alors que les autres, Bernard Desclot et les autres, c'est de l'écrit. Ce qui fait que vous avez un texte qui est extrêmement difficile à rendre dans une autre langue, le texte de Jaume, mais un texte qui est autrement imagé et autrement intéressant et autrement authentique.
Il y a une fraîcheur extraordinaire
c'est
dans
ça,
ce texte.
C'est ça. C'est ce qu'on a essayé de rendre et ce que nous essaierons de rendre quand nous ferons là. Donc la traduction intégrale qui est pour la fin de cette année, on peut le dire.
Il sait même rire.
Oui. Alors, vous savez, on est très loin de ce que pensaient les universitaires catalans autour des années 30. C'est-à-dire qu'ils considéraient ce texte un petit peu comme une vache sacrée. Et il ne fallait pas y toucher à ce texte, hein, parce qu'il y avait aussi le côté premier texte en langue catalane, dont sur le plan national c'était extrêmement important. Hein. Et il fallait le valoriser de toutes les manières. Et certains chercheurs ont même trouvé dans ce texte, puisqu'il fallait à tout prix que la Catalogne ait une histoire et des chansons de gestes, ils ont cherché à y trouver même des traces de versification de vieilles chansons de gestes oubliées. Plus personne ne pense ça, surtout depuis la thèse de José María Pujol, qui avait montré que c'était de l'oral. Mais avec cette fraîcheur, cet humour du roi qui transparaît. Et c'est ça qui est intéressant dans la traduction, de montrer qu'il y a aussi chez lui, ce n'est pas un héros épique seulement. Il y a cette capacité d'humour, cette capacité à se moquer de lui-même par moments même, hein, et à se moquer des autres surtout. Hein. Mais c'est ça qui donne cette fraîcheur au texte.
Alors je disais tout à l'heure qu'à la différence de Bernard Desclot, il ne revient pas sur les origines qui sont des origines politiques. Il s'agit aussi de rassembler les nobles pour éviter qu'ils se battent entre eux. On a tout de même affaire à un roi qui est un roi catholique, et il le montre bien dans tout le prologue de son texte. Il ne s'agit pas d'en faire uniquement un calculateur politique, c'est un roi très chrétien.
C'est un roi de son époque, qui assiste à la messe tous les matins. C'est pour ça que quelquefois, certains chercheurs ont dit « mais ce n'est pas lui qui a écrit ça ». Parce qu'il cite des textes religieux, il cite des proverbes religieux, des morceaux de l'Évangile ou des morceaux de quelques textes connus de l'histoire religieuse. Et on s'est dit « c'est pas possible ». Mais on oublie que cet homme, dont on ne sait même pas aujourd'hui s'il savait écrire, assiste à la messe tous les matins, et surtout c'est un homme d'une prodigieuse intelligence et d'une prodigieuse mémoire. Donc il est capable de mémoire de citer ce qu'il dit.
Alors entrons dans cette conquête. Comment se passent les premiers mois de la conquête? D'abord la traversée.
D'abord il faut réunir le monde. On a prévu de se réunir, on s'est dit voilà, les Corts de Barcelone ont pris comme décision d'appuyer la conquête et Et chacun a promis de venir avec un certain nombre de chevaliers. Les villes de la côte et Barcelone en particulier, ont mis à disposition du roi leur flotte, hein, parce qu'il faut passer la mer quand même. Hein.
Elle n'est pas si facile à passer.
Parce n'est pas
on,
si facile.
On a tendance à voir un peu la Côte d'Azur comme, ou la Méditerranée comme un lac tranquille. Il n'en est rien. Elle sait être furieuse.
Elle sait être furieuse. Et alors, tout le monde se trouve à Tarragone, donc, puisque c'est de là qu'on part, d'une plage près de Tarragone, au début septembre 1229. La flotte part. C'est un grand moment d'émotion. Et le roi dit... C'était si beau de voir cette mer toute pleine de voiles, toute blanche de voiles. Mais après ce départ heureux, alors vient une traversée catastrophique où les quatre vents se succèdent, hein, où les quatre vents se succèdent, et l'un vers le nord, l'autre vers le sud, on ne sait pas où on va arriver. Hein, et donc, le roi est même obligé... pleine traversée, de s'adresser directement à Sainte-Marie, qui le protège,
oui. Hein,
pour qu'ils arrivent à bon port. Hein. Et finalement, donc, après ces événements, hein, ils arrivent en face de ce qui est leur destination, pas première, non, mais la destination qui s'offre à eux, hein, la côte de Majorque.
Donc nous sommes sur la côte ouest, vous décrivez le mouvement au début, il s'agissait de débarquer sur le nord, oui. Sur une petite ville qui s'appelle Pollença, finalement ils débarquent au sud, dans un lieu qui s'appelle Santa Ponsa, où d'ailleurs on trouve toujours la croix au niveau du rocher donc, où les premières troupes ont débarqué.
C'est cela, allez-y.
Comment réagissent à ce moment les musulmans?
Alors,
ils sont au courant, ils savent qu'il y a ce projet de conquête, parce qu'entre la décision de la conquête et l'embarquement effectif et l'arrivée finalement à l'île de Majorque, il y a un certain temps, si bien que...
Les musulmans sont prévenus. Il est impossible qu'ils n'aient pas été prévenus. Ils le savaient. Ils le savaient. D'ailleurs, les chroniqueurs musulmans nous le disent. Mais celui que le roi appelle le roi Jaume appelle le roi de Majorque, est un petit peu isolé à cette époque-là. C'est le dernier émir de l'Empire almohade qui s'est écroulé donc à Las Navas de Tolosa 18 ans auparavant. Il est un petit peu isolé sur ces îles et il ne pensait pas certainement que le roi Jaume réussirait à organiser une telle flotte, une flotte aussi importante. Il n'a pas pris de précautions, il n'a pas demandé d'aide à ceux qui pouvaient l'aider. Hein, en particulier donc les émirs de Tunis. Il n'a pas pensé à ça. Ce qui fait que la traversée de Jaume, elle a été difficile à cause de la météo, mais pas du tout à cause d'une flotte musulmane qui aurait pu se trouver dans les environs. Et après, le problème, ça a été de savoir où les chrétiens vont débarquer. Et il y a plusieurs épisodes dans le livre où on nous montre les chrétiens longeant la côte avec leurs vaisseaux et les musulmans sur la côte avec leurs troupes, suivant l'avancée des chrétiens. Mais à un moment donné, il faut débarquer. Et quand on débarque, c'est l'affrontement. Alors, c'est la bataille.
Alors, comment va se dérouler cette bataille? C'est ce que je vous propose de voir Robert Vinas dans un instant. Un jour dans l'histoire reçoit Robert Vinaz, historien et auteur, avec Agnès Vinaz, d'un ouvrage, La conquête de Majorque, paru aux éditions de la Société des Pyrénées-Orientales, un livre que nos auditeurs trouveront sans aucun problème sur le site internet méditerranée.net. Alors, Robert Vinaz, nous en sommes au moment où donc Jaume Jacques, Jaume étant le nom catalan de Jacques Ier d'Aragon, arrive à Santa Ponsa, qui ne s'appelle pas à l'époque évidemment Santa Ponsa, qui est une immense baie, et sur cette baie, il débarque. Y a-t-il un affrontement ?
Il n'y a pas d'affrontement immédiat, parce que les bateaux sont allés plus vite que les troupes musulmanes qui longeaient la côte. Donc le premier débarquement se fait sans difficulté, les chrétiens prennent position, mais leur but c'est quand même de conquérir la principale ville de l'île, celle qui s'appelle aujourd'hui Palma, et que les musulmans appelaient à l'époque Medina Mallorca. Et l'affrontement va se faire entre Santa Ponsa et Medina Mallorca, à l'endroit que on montre encore aujourd'hui, qui s'appelle le col de la bataille. Mmh. Et alors là, bien sûr, c'est l'affrontement guerrier, et les chevaliers qui viennent du continent, les chrétiens, armés plus puissamment que les musulmans, les mettent en déroute, non sans avoir subi de lourdes pertes parmi les grands barons qui accompagnaient le roi Jacques.
Il y a très peu de kilomètres entre Santa Ponsa et Palma. Il doit y avoir peut-être une quinzaine.
15 à 20 kilomètres,
oui. Mais pourtant, la progression, visiblement, est facile dans un premier temps.
Oui.
Mais il s'arrête aux portes de la ville.
Oui. Alors, bien sûr.
De la ville principale, donc Medina Mallorca.
Medina Mallorca, l'actuelle Palma. Alors, bien sûr, les troupes du roi Jacques avancent vers la capitale après avoir mis les Sarrasins en fuite. Mais après, il y a cette capitale, c'est-à-dire une ville dont nous savons aujourd'hui qu'elle était puissamment fortifiée et qu'il n'était pas facile de prendre. D'autant qu'elle disposait de réserves alimentaires extrêmement importantes. Il faut se préparer à un siège. Et le siège va durer donc de la mi-septembre jusqu'à ce 31 décembre 1229, jusqu'à l'assaut final du 31 décembre 1229.
Donc il faudra quasiment 4 mois pour prendre la
c'est
ville
cela.
Qui n'était pas si aisément.
D'autant que le siège, on le sait aujourd'hui, n'était pas absolument étanche. Et qu'il y avait des communications, qu'il y avait des sorties. Donc, qu'il y avait des sorties qui ont été faites par les musulmans, en particulier une sortie que le roi Jaume nous raconte avec délectation, c'est celle pendant laquelle un groupe de guerriers sarrasins coupe l'eau qui alimentait le camp chrétien. Et il faut faire une incursion à l'intérieur contre cette troupe qui avait coupé l'eau pour rétablir donc, l'alimentation en eau du camp. Et le roi Jaume raconte ça d'une manière extraordinaire, mais surtout, et Bernard Desclot raconte ça aussi très bien, l'autre chroniqueur qui s'est intéressé à ça. Il nous raconte en particulier des faits savoureux. Au départ, le roi de Majorque n'avait pas pu pénétrer dans la ville, il était dehors. Il a voulu rentrer quand même pour être à la tête de ses gens, pour défendre sa ville. Et alors, une nuit, les musulmans qui étaient à l'intérieur de la ville se sont mis à faire des feux, à taper dans des casseroles. Et tout ça, ça a tenu les chrétiens éveillés. Et au petit matin, au chant du coq, le roi sarrasin, Abou Yahya, s'est glissé dans la ville et a réussi à rejoindre ses coreligionnaires.
Alors, il y a des négociations quand, tout de même entre Jacques. Je parlais tout à l'heure du désaccord entre Jacques et ses nobles. Il concerne justement la prise de la ville.
Et oui.
Les nobles souhaitaient le faire par la force. Jacques semblait pour une solution plus pacifiste.
C'est-à-dire que, fatalement, comme le siège dure, il y a même des assauts qui sont manqués, malgré tout ce qu'on emploie comme machine de guerre, malgré les galeries de mines qu'on creuse. Enfin, c'est une histoire extraordinaire. On pourrait faire un traité de polyorcétique à travers les tentatives pour prendre cette ville. C'est un siège modèle, de ce côté-là. Et puis, à un moment donné, comme personne ne gagne, il y a des négociations. Et les négociations commencent d'abord avec un renégat chrétien qui s'était fait musulman et qui établit un contact. Le roi dit non, pas de contact avec cet homme-là. Mais après, il y a un autre assaut qui échoue. Ça traîne, il pleut, tout le monde s'embourbe, disons que le moral baisse. Et quand les Sarrasins envoient un deuxième négociateur, on l'écoute. Mmh. Officiel cette fois, on l'écoute. Et alors, le négociateur qui vient du côté chrétien, c'est le seigneur du Roussillon, Nuño Sanz, qui est l'oncle du roi Jacques, et qui va discuter avec le roi de Majorque. Et le roi de Majorque lui dit, mais je ne comprends pas pourquoi votre roi veut me prendre mon royaume. Qu'est-ce que je lui ai fait? Et Nuño Sanz lui dit, mais vous avez fait une chose terrible. Vous avez pris des bateaux chrétiens, vous avez retenu nos gens comme captifs. Ça ne va pas. Et puis, on vous a demandé de réparer. Et puis, vous avez dit non, mais qu'est-ce que c'est que ce petit roi qui me demande ça? Mais non, sachez que notre roi est jeune, il a 20 ans, c'est sa première sortie hors de ses terres, et il a bien l'intention de vous prendre le royaume de Majorque. À ce moment-là, les Sarrasins disent, mais on pourrait peut-être s'arranger, nous. On va vous payer toutes vos dépenses, et puis vous repartirez chez vous tranquillement. Ah non, ça ne marche pas. On veut Majorque. Ah, vous voulez Majorque? Bon, alors voilà. Deuxième proposition, je vais partir avec mes gens, je vous donnerai une somme par tête pour que vous nous laissiez partir et vous nous déposez sur la côte de Berbérie. Et ça ira comme ça. Alors le...
Berbérie étant bien évidemment
Berbérie étant le Maghreb. Ou Barbarie, à l'époque on disait aussi, puisqu'on parlait des pirates barbaresques. C'était bien ça. Alors le seigneur du Roussillon, Nuño Sanz, revient au camp, tout joyeux, et il dit au roi Jacques, ça y est, c'est gagné. C'est gagné. Ils vont partir, ils nous laissent l'île avec tout ce qu'on veut, nous on les débarque là-bas. Mais c'est que les nobles ne sont pas d'accord. Et ils disent non. Non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Nous, nous voulons tout. Parce que si nous les laissons partir, ils vont chercher des alliés là-bas, ils vont revenir, et on n'aura jamais fini. Donc il nous faut tout, maintenant, tout de suite. Bien sûr, l'arrière-pensée, c'est que ils veulent le butin, ils veulent tout. Ils ne veulent pas que ça revienne au roi. Et finalement, le roi Jacques est obligé de les suivre, bon gré mal gré, et ça se terminera par cet énorme assaut du 31 décembre, où ce sera d'ailleurs l'un des grands carnages de la Reconquête.
Oui, bien évidemment, parce qu'il y a un pillage.
Oui. Massacre, pillage. Tous ceux qui ne sont pas massacrés sont réduits à l'esclavage, à part quelques centaines qui réussissent ensuite à se réfugier dans les montagnes à l'intérieur de l'île et qu'il faudra aller chercher dans d'autres expéditions 2 ou 3 ans plus tard.
On dit, certains historiens ont dit que cette conquête de la ville donc principale de Majorque s'était faite grâce à un traître. C'est une thèse que vous rejoignez? Parce que toute guerre a ses traîtres, et d'ailleurs vous montrez plusieurs Sarrasins qui rallient très vite le camp chrétien.
Oui, là, la prise même de la ville, non. La ville n'a pas été prise par traîtrise. Elle a été prise par un assaut frontal, bien préparé par des galeries de mines, par des tirs de machines, de trébuchets, qui ont fait écrouler des tours et qui ont permis d'ouvrir un passage. C'est ça, c'est comme ça. Mais auparavant, il y avait eu dans l'île des chefs locaux qui s'étaient ralliés et qui avaient ravitaillé l'armée du roi Jacques. Des gens qui sentaient le vent, et dont les descendants sont encore toujours à Majorque. On en connaît. On peut même citer des noms de familles qui se sont donc ralliés à ce moment-là et qui se sont convertis au christianisme et qui, eux, n'ont pas été inquiétés après la conquête.
Oui, vous parlez des descendants, puisqu'il y a encore aujourd'hui des descendants de musulmans convertis.
Ralliés, oui, bien sûr. Bien sûr.
Alors, Il y a bien évidemment le merveilleux, l'épique, l'exagération dans les exploits. D'ailleurs, Bernard
Desclot
n'y est pas étranger. Hein. Vous publiez son texte et vous le montrez bien. Et il y a cette fameuse légende de Saint-Jordi, qui n'est autre que Saint-Georges.
Voilà. Mais voyez comment le roi Jacques présente ça. Il dit au moment de la prise, et on dit qu'au moment de la prise de la ville, il y a eu un chevalier blanc avec ses armes blanches qui s'est présenté en tête des troupes chrétiennes. Et beaucoup disent que c'était Saint-Jordi lui-même. Saint-Georges, c'est-à-dire celui qui aujourd'hui
terrasse le dragon
et qui est le patron de la Catalogne.
Et c'est un personnage que l'on ne rencontre pas pour la première fois à Majorque. On l'avait déjà rencontré auparavant.
Et Saint-Georges, vous le retrouvez dans toutes les légendes de l'époque. Hein. Et d'ailleurs, il y a un magnifique retable au musée donc épiscopal de Majorque qui représente une vue de la ville de Majorque avec, à un moment donné, la figure de Saint-Georges qui tue le dragon.
Hein. Alors, on imagine qu'une fois la ville principale conquise, le roi Jacques va souhaiter conquérir le reste de l'île.
Le reste, oui.
En fait, il n'en est rien. Là encore, les vassaux ne sont pas d'accord. Les vassaux veulent se partager le butin.
Voilà. Et oui, parce qu'ils sont venus pour ça. Ils sont venus pour ça. Et alors, il y a toute une série de tergiversations, de discussions pour se partager le butin.
Et ça dure très longtemps.
Ça dure longtemps.
Plusieurs mois.
Ça dure longtemps. Ça dure du 1er janvier jusqu'à Pâques. Et bah, d'ailleurs, à ce moment-là, il y a même une épidémie qui frappe les principaux nobles et qui retarde encore les affaires. Et puis, vous savez, les armées féodales, les armées qui sont bâties sur le système féodal, les gens ne sont pas là pour servir tout le temps. Ils sont là pour servir 2 mois, 3 mois ou jusqu'à la fin de l'expédition.
Il n'y avait pas d'armée de métier à proprement parler.
Ils veulent rentrer sur le continent et surtout, ils veulent récupérer très vite leur mise et rentrer chez eux, hein. À tel point qu'après la conquête, lorsque tout le monde sera, ou presque sera rentré, le gros problème du roi, ça va être de peupler l'île. Hein. Comment, hein, on lancera des appels pour peupler l'île, et des gens viendront de partout pour repeupler l'île.
Hein. L'île va se vider complètement de la population musulmane. Vous consacrez plusieurs pages à cette population musulmane.
Oui, alors, il y a tous ceux qui ont été tués au moment du siège, il y a tous ceux qui ont réussi à s'enfuir, et tous les autres sont réduits en esclavage. Mais ça veut dire que l'île ne peut plus rendre ce qu'elle rendait sur le plan agricole. Il faut appeler des colons. Alors, les principaux nobles reçoivent une part et sont chargés. Non, il y a encore des textes qui datent de l'époque. Tout le livre des répartitions qui a été fait donc, immédiatement après la conquête existe. Et les historiens ont travaillé dessus, les historiens majorquins. Nous savons encore à qui sont allées les propriétés. Une par une, et comment ça a été réparti,
hein. Ce qui est très, très anecdotique, mais finalement important pour l'occupation et la sécurisation militaire, c'est l'intervention des ordres. Et vous présentez même l'ordre hospitalier qui arrive après la bataille et qui demande sa part de butin.
Ah oui, bien sûr, parce que les Templiers étaient là depuis le départ. Hein. Ils étaient aux premières réunions à Tarragone. Ils ont été largement récompensés. Hein. Mais après se présente l'ordre frère, hein, l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Eux, ils ont loupé le départ. Ils demandent leur part quand même. Mais le roi la leur donne parce que le roi a besoin d'eux pour finir de conquérir l'île. Et donc, il arrive à convaincre tout le monde qu'un ordre pareil qui va apporter l'aide qu'il va apporter effectivement, on ne peut pas le mécontenter, il faut lui donner sa part.
Je reçois Robert Vinas, auteur avec Agnès Vinas du livre La conquête de Majorque, paru à la Société des Pyrénées-Orientales, un livre que nos auditeurs peuvent retrouver, en tous les cas commander, sur le site internet méditerranée.net. Il s'agit d'un ouvrage très pédagogique, hein, nous l'avons dit tout à l'heure, qui est un ouvrage autant à l'usage des spécialistes que des passionnés d'histoire régionale, des passionnés de cette histoire méditerranéenne que l'on connaît finalement très peu et qui pourtant devrait être très présente dans nos mémoires. Nous nous retrouvons, Robert Vinas, après une toute dernière pause.
L'Académie française.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres.
L'Académie des sciences.
L'Académie des beaux-arts.
L'Académie des sciences morales et politiques.
Pour vous,
une seule radio.
Sur Internet.
Canal Académie.
Je reçois au micro de Canal Académie Robert Vinas. Nous entamons, Monsieur Vinas, la dernière partie de notre émission consacrée à la conquête de Majorque. Vous êtes l'auteur du livre, donc La conquête de Majorque, paru à la Société des Pyrénées-Orientales. Alors nous avons évoqué cette conquête principale, hein, que fut la conquête de la ville, qui fut une conquête qui dura plusieurs mois. Après, il s'agissait de faire cette conquête de l'intérieur, car il y avait plusieurs zones de résistance à l'intérieur, bien évidemment, de l'île.
Oui, il y a eu des poches de résistance qui ont pu se maintenir 2-3 ans. Hein. Mais il a fallu aller les chercher, parce que les messieurs étaient réfugiés même dans des grottes. Des grottes qu'on a explorées, d'ailleurs, depuis. Hein. Et on a retrouvé des choses totalement émouvantes dans ces grottes. Et en particulier, on a retrouvé un objet qui a une signification extraordinaire. Ces gens-là avaient emporté chez eux, de chez eux, dans ces grottes, la clé de leur maison en ville. Et ces clés ont été retrouvées, vous pouvez les voir aujourd'hui encore au musée de Majorque. D'ailleurs, nous en avons publié une. Je trouve que c'est quelque chose d'émouvant de voir ça.
Alors, il y a une poche particulièrement sur laquelle vous arrêtez. Hein, c'est le rocher d'Alaro, c'est ça ?
D'Arta, la région d'Arta, oui.
Dans lequel, les hospitaliers qui cette fois prennent part à la bataille font preuve d'originalité, utilisent un stratagème pour conquérir la poche de résistance.
Oui, parce que les Sarrasins sont réfugiés dans une grotte. On ne peut pas forcer la grotte qui est à flanc de montagne. Alors le maître des hospitaliers, Hugues de Fort-Calquier, lui trouve un système qui lui fait descendre l'un de ses hommes attaché à une corde avec un chaudron où il y a des braises. Et il fait lancer, donc, par cet homme pendu à une corde, des braises juste à l'entrée de la grotte. Et alors, il y a les tentes qui sont là-devant brûlent. Et alors, ceux qui sont dedans doivent se rendre, bien sûr.
Alors, cette conquête ne s'arrête pas là, parce que les Baléares sont constitués de plusieurs îles. Hein. Il y en a quatre. Il y a Majorque. Donc, Majorque, c'est la majeure, la principale. Mais il y a également Évicia, qui est l'actuelle Ibiza, et Minorque. Et enfin, une toute petite, un petit îlot qui s'appelle Formentera. Et là encore, c'est là où j'allais dire, on sourit et Jacques Jaume dans sa chronique, qui n'est pas vraiment une chronique, hein, vous le dites, fait sourire, c'est-à-dire qu'il arrive à prendre l'île de Minorque absolument sans aucune bataille.
Oui, Jacques est rentré sur le continent, il a fait 2-3 voyages pour terminer donc la conquête de Majorque, et à un moment donné, le maître des Templiers lui dit, lors d'un de ses séjours, vous savez, si vous voulez prendre Minorque, il y a un très joli coup à faire. Nous allons à Minorque et avec nos galères armées. Et là, quand ils vont nous voir arriver, ils vont prendre peur. Hein. Et à ce moment-là, c'est ce qui se fait. Hein. Jacques envoie ses gens à Minorque. Ces gens discutent avec les chefs de Minorque et leur disent, vous savez, notre roi est décidé à prendre Minorque. D'ailleurs, vous pouvez voir, il a son armée qui est prête là-bas. vous pouvez voir tous les feux sur la montagne en face de chez vous, au Cap de Pera. Et en effet, le roi campe là-bas avec quelques dizaines de ses soldats. Et tous les soirs, ils allument des centaines de feux sur la côte de manière à être vus de Minorque. Et donc, l'émir de Minorque, effrayé, signe, pensant qu'il y a là une grande armée, signe avec le roi Jacques un traité de protectorat qui durera 50 ans jusqu'à ce que l'un des successeurs du roi Jacques termine le protectorat par une conquête également. Et pour Evie, ça c'est différent. Le roi Jacques ensuite.
Pour Evie, qui est Ibis à
l'actuel Ibis, qui est Ibis à aujourd'hui. Evie, ça c'est le nom majorquin. Là c'est différent parce que le roi Jacques est occupé très vite à la conquête de Valence, du royaume de Valence. Et donc il n'a pas le temps de s'occuper d'Evis, et il donne ça, il donne l'autorisation de conquérir Evis à l'archevêque de Tarragone, tout simplement, et à un seigneur, et à un autre seigneur, qui vont faire la conquête pour leur propre compte, et qui ensuite donc, partageront avec le roi l'île d'Ibis, c'est comme ça que ça se passera.
Est-ce que les musulmans par la suite vont tenter de récupérer cette île? Enfin, ces îles?
Non. Non, parce que à cette époque-là, disons, ils n'ont pas la puissance navale suffisante pour le faire. Tout ce qu'il y aura, ce sera des corsaires, dont des opérations de course ou de piraterie, mais pas de tentative de reprise des îles. La course et la piraterie, vous savez, dans la Méditerranée occidentale, c'est quelque chose qui n'a pas cessé depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, hein, des deux côtés. Et l'un des prétextes pour la conquête, ça a été les pirateries des musulmans. Mais vous savez, dès que les Catalans ont eu repris Majorque, ils ont repris cette position magnifique en Méditerranée, à la croisée de tous les chemins de la Méditerranée occidentale, et ils sont devenus les premiers pirates de la Méditerranée occidentale.
Alors, le royaume de Majorque, hein, composé, je le rappelle, je le disais en début d'émission, du Roussillon, de la Cerdagne, de l'Aragon, ne va pas durer dans le temps.
Non, il ne va pas durer.
Alors, moins d'un siècle, finalement.
Moins d'un siècle. Le roi Jacques meurt en 1276 et son dernier testament, il en a fait 8, hein, son dernier testament, donc, partage, comme un bon seigneur féodal qu'il est, il partage ses terres entre ses deux fils issus de son mariage légitime avec Yolande de Hongrie. Le premier, l'aîné, Pierre, Pierre que les Catalans appellent Pierre le Grand, reçoit tout le bloc continental composé par l'Aragon, la Catalogne et le royaume de Valence. Et Jacques, le petit, reçoit un ensemble disparate, c'est celui que vous avez décrit tout à l'heure, et qu'on appelle le royaume de Majorque, dont la capitale est à Perpignan, 1276. Mais ce partage, qui normalement crée deux États indépendants, frères certes, mais indépendants, ce partage ne sera jamais accepté par le roi d'Aragon. Pierre, le fils aîné, 3 ans après la mort de son père, oblige son frère Jacques à lui prêter hommage. Et donc le royaume de Majorque, bon gré mal gré, se retrouve plus ou moins inféodé au royaume d'Aragon. Et cette situation de conflit latent durera jusqu'en 1343, quand Pierre IV, le cérémonieux, l'arrière-petit-fils du roi Jacques, se décidera donc à reconquérir par la force sur son cousin qui règne donc sur le royaume de Majorque. Il va reconquérir par la force les Baléares, le Roussillon et la Cerdagne, ne laissant donc à son cousin que la seigneurie de Montpellier.
Alors, je voudrais tout de même terminer cette émission par l'évocation de Jacques, hein, qui domine bien évidemment cet ouvrage, et disons pour faire le lien avec le prochain ouvrage qui sortira à la fin de l'année, en décembre 2007, donc qui sera complètement consacré à Jacques, puisque c'est la traduction complète du livre des faits dont Jacques est l'auteur. C'est un personnage à vous lire en tous les cas, et à le lire qui est vraiment attachant.
C'est un personnage attachant.
Il est jeune, il est grand, il est beau.
Oui, et il a tout pour lui. Il a eu une enfance malheureuse, pendant laquelle il a eu à subir toutes les avanies de ses grands féodaux aragonais et catalans, dont il a triomphé. Et ça, c'est la première partie du livre, celle qui précède la conquête de Majorque. Ensuite, peu à peu, il a grandi et son premier grand fait, c'est la conquête de Majorque. Et après, donc, après, il se lance vers la conquête du royaume de Valence, puis même de Murcie. Et ça, c'est toute l'histoire du livre des faits. C'est l'histoire du livre des faits qu'il mène jusque quelques mois avant sa mort. On a quelques doutes sur la rédaction des derniers chapitres, qu'il n'a pas eu forcément le temps de réviser, mais il mènera ce récit autobiographique presque jusqu'à la fin. Et alors là apparaît un personnage absolument extraordinaire, parce que c'est en fait le seul roi du Moyen-Âge, le premier roi médiéval dont on peut étudier non seulement les faits, les grands faits d'armes, mais également la personnalité. Et ça, c'est une première dans l'histoire de l'Occident médiéval, qu'un roi nous donne un récit autobiographique. Qui fasse écrire un récit, le récit de sa vie, par des historiens officiels, ça, d'autres l'ont fait.
Joinville. Oui.
Joinville. Mais justement, lisez Joinville et lisez notre texte sur Jacques, et vous verrez la différence qu'il y a entre quelqu'un qui écrit la vie d'un autre et quelqu'un qui raconte sa propre vie.
Eh bien, c'est une invitation, Robert Vinas, à vous retrouver en tous les cas au micro de Canal Académie pour évoquer ce roi à la fin de l'année, au mois de décembre prochain. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie.
Merci.
Je renvoie nos auditeurs d'abord à un lieu, Perpignan, où se trouve toujours le Palais des Rois de Majorque.
Qui servira peut-être de cadre à la première présentation du livre, comme il l'a servi de première présentation pour la conquête de Majorque.
Alors si nos auditeurs, s'il y a des auditeurs dans la région de Perpignan, qu'ils aillent sur le site, et même tous les auditeurs, qu'ils aillent sur le site méditerranée.net, où on peut retrouver le livre La conquête de Majorque.
Méditerranée au pluriel.
Méditerranée au pluriel, méditerranée.net. Donc La conquête de Majorque, c'était un ouvrage de Robert Vinas. Merci à vous et d'Agnès, votre épouse.
Faut pas l'oublier.
Merci et à très bientôt.
Merci.